Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Voilà, à l'antenne.
Nous revoilou.
Nous revoilou avec la pluie. Et voilà. Alors, comme c'est difficile en ce moment d'aller se promener et tout ça, voilà.
Très.
Donc, eh bien, aujourd'hui, on va faire un petit tour à Paris. Et donc, vu au travers de plusieurs auteurs.
À Paname.
Voilà, à Paname. et donc, d'ailleurs, ce que vous entendez en tapis, ça s'appelle « Afternoon in Paris » de John Lewis.
La voilà. Classe.
Ah, voilà. Bon. Non, bon, alors on aurait pu mettre du Musette aussi, mais bon.
Paris canaille.
Donc, voilà. Donc, comme je le disais, notre émission d'aujourd'hui est consacrée à Paris, notre belle capitale. Alors, les trois premières nouvelles qui parlent de Paris donc, sont extraites du recueil « Voyage capitale et autres nouvelles » qui rassemble 9 récits ayant Paris pour toile de fond. Donc la dernière est écrite par un célèbre américain, mais le premier récit que nous allons écouter est écrit par un Normand, Nicolas Rey, élu par Philippe, notre co-animateur dans cette belle émission.
Absolument.
Donc je vous propose d'écouter tout de suite Paris deux fois.
Elle s'appelle toutes les deux Paris, comme dans Amicalement Vôtre. La première se prénomme Hortense, Hortense à Paris. La seconde Marion, Marion à Paris. C'est une histoire de noir et blanc, de blanc et noir. C'est l'histoire de Marion et d'Hortense à Paris. Comme toutes les Parisiennes, Marion et Hortense sont nées à Limoges. Comme toutes les Parisiennes, Hortense est comédienne. Il n'empêche, même à 2h du matin devant le Café Charbon, la nuit et en plein hiver, Hortense ne dira jamais « Je suis comédienne ». À Paris, mesdames et messieurs, on ne dit pas « Je suis comédienne ». On dit « Je prépare le conservatoire ». C'était il y a près de 20 ans. Hortense débarque sur le boulevard périphérique avec ses bagages dans le coffre de la Twingo de Marion, son amie d'enfance. Marion connaît déjà Paris depuis 3 mois, autant dire une vie en langage parisien. Marion est capable de donner un coup de pied sur un pare-choc en ruine, d'éviter le boulevard Magenta parce qu'à cette heure-ci, c'est vraiment pas la peine, et enfin de klaxonner 5 bonnes minutes derrière un crétin immatriculé 27 qui n'est même pas capable de passer à l'orange place de Clichy. Marion est donc déjà chimiquement parisienne. Aujourd'hui, Hortense et Marion ne se parlent plus. Marion est propriétaire dans le 17e, Marion vit avec Philippe, Philippe est graphiste, Philippe est très investi dans le bien-être urbain et recyclable. Ils ont 2 enfants, ils vont au square le dimanche matin, ils brunchent avec des amis, lesquels, eux aussi, vont au square le dimanche matin. Hortense, non. Hortense n'a pas arrêté de fumer. Hortense est toujours célibataire. Enfin, disons qu'elle a souvent quelqu'un, mais qu'elle est toujours célibataire. Hortense n'a jamais fait de Vélib de sa vie. Hortense file avec son scooter sur les quais de Seine. Hortense laisse la journée aux autres. La Défense, la Bourse, tous ces gens dans des bureaux, toute cette bêtise qui envahit la ville, ce n'est pas le truc d'Hortense. Lorsque le soir arrive, elle oublie toujours que dehors, il fait très froid. Hortense ne regarde jamais avant de traverser. Mais c'est un autre monde. Une autre vie que celle d'Hortense, nous y reviendrons plus tard lorsque les enfants seront couchés. Pour l'instant, ce sont 2 Paris qui s'affrontent, le Paris du jour contre le Paris de la nuit, Marion contre Hortense. Ne comptez pas sur moi pour porter un jugement, j'ai passé l'âge pour ce genre de choses. Je suis arbitre sur ce coup-là. je ne fais que constater. Dieu sait que j'en aurai des faits à raconter. Il n'empêche, force est de constater que le pari du jour est en train de gagner la partie. Même la jeunesse commence à goûter au pari du jour. Prenez Marion, par exemple. 38 ans, plus très neuve, mais tout de même. Marion, une douche rapide, un zeste de blush, un aperçu de mascara, du gloss sur les lèvres afin d'être brillante sans avoir l'air de rien. Un t-shirt blanc, un jean incroyable pour des fesses qui savent encore se tenir, être belle sans se mettre à dos qui que ce soit, déposer les enfants à l'école, prendre le métro un pain au chocolat dans la bouche. Le wagon est chargé, mais va directement porte de la Chapelle jusqu'au boulevard Ney. Marion ne peut pas vivre sans sa demi-heure de yoga. Marion est devenue professeure à l'ECRA, la première école internationale de communication relationnelle artistique. Ne vous moquez pas, votre fille va peut-être un jour vous annoncer qu'elle désire faire cette école-là. À midi, Marion mange japonais sur le pouce afin de s'octroyer sa demi-heure de yoga. Marion ne peut pas vivre sans sa demi-heure de yoga. Dès qu'il y a un rayon de soleil, elle adore prendre un verre sur une terrasse en fin d'après-midi, avec des amis si possible, et pas très loin du Luxembourg. Le week-end, Marion ne refuse jamais quelques musées et une exposition. Par exemple, elle connaît par cœur le musée Rodin, alors qu'il n'y a rien de plus fatigant que le musée de Rodin. Mais qu'importe, je refuse de prendre parti. Marion aime aussi aller au cinéma du MK2, quai de Seine, à cause du canal de l'Ourcq et de la Villette. Marion trouve formidable d'emmener ses enfants à la Villette. La Villette, ou la définition même de la mixité sociale et de la culture en s'amusant. La semaine dernière, Philippe et Marion ont emmené au Louvre le petit dernier. Le petit dernier s'appelle Solal. Vous imaginez dans 10 ans, Solal dans une boum à Paris, cette ville magnifique ? Salut, je m'appelle Solal, tu danses avec moi ? Non, t'as un appareil dentaire. Eh ouais, mais je m'appelle Solal, comme dans Belle du Seigneur. Ouais, mais t'as une vilaine peau et un appareil dentaire. Pour l'instant, Solal, 2 ans et demi, a hurlé devant la Joconde parce que la Joconde ne bougeait pas, ne souriait pas, mais souriait un peu quand même. Et ça, vraiment, ça peut rendre dingue un gosse de 2 ans et demi. Solal était convaincu que la Joconde lui préparait un mauvais coup, et je ne suis pas en désaccord total avec le môme sur ce coup-là. Hortense émerge vers 17h. Elle a manqué sa répétition de théâtre, elle s'en tape. Elle sait que la pièce ne se fera jamais. Elle ouvre son frigo, elle le referme. Elle cherche à se faire un café. Hélas, comme sa cuisine ressemble à une scène de massacre à la tronçonneuse, Hortense déclare forfait. Elle va au bistrot du coin et commande un double café Calva. Hortense a également tiré un trait sur sa carrière d'actrice depuis qu'elle a tenté d'arracher les amygdales de son agent lors d'un vernissage avec une flûte à champagne. Hortense doit se dépêcher. Dans 1 heure, elle travaille. Dans 1 heure, elle devient serveuse dans un restaurant près des Halles. À l'heure où Marion va lire des histoires à ses gosses, une table de 10 laissera peut-être 5 euros de pourboire à Hortense. Ensuite, ce sera la nuit. Dans l'obscurité d'un club, elle est encore la plus belle fille qui soit. Les jeunes hommes auront tous un premier roman qui va sortir bientôt chez Gallimard. Les filles sortiront tout juste d'un casting qui s'est vraiment bien passé. Mais de Pigalle au Baron, c'est Hortense la reine de ce petit monde en fuite. À Paris, c'est toujours la nuit qui gagne, l'espace de quelques heures. À Paris, vers les 4h du matin, un type marié embrasse Hortense sur la bouche. En faisant cela, on imagine assez facilement les bonheurs et les emmerdements à venir. Un baiser comme un départ étrange, confortable et doux. Ensuite, des ennuis par milliers, des lâchetés à résoudre. Ensuite, mais demain. Cette nuit, d'abord. Cette nuit, serveur, je voudrais la même chose. Cette nuit est une grande histoire. Cette nuit, dans Paris, 2 silhouettes hésitent sur un trottoir, puis décident d'aller faire l'amour dans une chambre d'hôtel près de Montparnasse. À l'aube, les amoureux se retrouvent rue de Charonne, dans le studio d'Hortense. Ils vont remettre ça avant le lever du soleil. Au matin, avant d'aller se coucher, Hortense va acheter des cigarettes. L'homme est parti. Qu'importe. Elle est fière des marques rouges qu'il vient d'inscrire sur son cou et elle s'amuse de ses courbatures. Bien sûr que dans cette ville, le jour a pris le dessus. Mais la nuit, Paris sait encore un peu, à sa façon, prendre soin d'Hortense.
Donc voilà, cette nouvelle était écrite par Nicolas Rey, donc qui est né à Évreux le 8 mai 1973. Alors, il est écrivain et scénariste. Donc, il a fait ses études au lycée Georges Dumézil à Vernon. Et après le bac, il va s'installer à Paris et il va rencontrer le romancier Philippe Diane, qui va l'initier à la littérature en lui laissant découvrir des auteurs comme Richard Bourdigan ou Raymond Carver.
La Beat Generation.
Voilà. Alors, il ambitionne d'être réalisateur de cinéma, mais à la suite d'une déception amoureuse, il va se lancer dans la littérature, publiant son premier roman, donc 13 minutes, en 1998. Alors, il obtient le prix de Flore en 2000 pour son roman Mémoire courte, et puis lancé par Franz-Olivier Gisbert dans l'émission Culture et dépendance, il est ensuite chroniqueur dans de nombreuses émissions à la radio ou à la télé. Alors, à partir de 2014, il effectue des lectures musicales aux côtés du chanteur Mathieu Saïkali à l'Européen, dans le 17e arrondissement de Paris, et à la Maison de la Poésie. Il intervient d'ailleurs à ce titre avec Mathieu Saïkali sur France Inter dans une chronique radiophonique à leur nom, Les Garçons Manqués. Alors, en décembre 2014, il va être le héros, malgré lui, de Sumo, le dernier roman de Frédéric Groslot dans lequel il brosse un portrait au vitriol du milieu littéraire parisien. Alors, il va écrire un scénario aussi, La femme de Rio, et il va coécrire avec Emma Lucchini, tiré d'ailleurs de leur court-métrage du même nom, dans lequel il joue. Alors, ce court-métrage est sélectionné dans plusieurs festivals, dont le Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, et est couronné du César du meilleur court-métrage en 2015. Et en 2018, il sort son roman « Dos au mur ». Voilà. Donc, c'est un ancien alcoolique, ancien cocaïnomane, plusieurs fois hospitalisé pour être sevré. Il montre lors de la promotion de son livre un corps de septuagénaire cabossé par des années d'excès.
Il va jusqu'au bout son admiration pour la Beat Generation. Là.
Voilà, c'est ça.
Pour ses illustres prédécesseurs. Mais tu sais, moi, je me suis souvenu de lui dans une émission de Pascal Flarc sur France Inter. Mm-hmm. Il faisait une chronique assez longtemps. Hein. C'était comme On nous parle, c'était une émission tous les matins de cette journaliste-là. Quoi. Mm-hmm. Je me suis rappelé comme ça.
Et donc voilà pour Nicolas Rey.
Un gars du cru.
Voilà. Donc, il a écrit peu de nouvelles, quoi. Mais du coup, il en a fait une pour ce recueil-là qui était spécifique sur la thématique de Paris. Donc, maintenant, je vous propose une autre nouvelle, cette fois écrite par un Parisien, Alain Tellier. Et donc là, l'histoire va être lue par Sophie et s'appelle « Happy Birthday ».
Marianne était serveuse au Lovely Sky et elle faisait son job comme une actrice. Le bar était son théâtre. Elle choisissait ses vêtements comme le costume d'un rôle. Elle changeait de style, étonnée, déroutée, portait des perruques, des talons hauts, des talons plats. Le Lovely Sky était situé place de la République. Elle était née dans les parages et depuis 20 ans, elle habitait là, chez son père, dans la rue Dieu, près du canal. Rue Dieu, oui. Elle avait compris tard qu'il s'agissait bien de lui, car pendant sa jeunesse, elle prononçait Rue Dieu sans se poser de questions. En fait, Marianne n'avait jamais quitté ce quartier. Son père lui racontait des histoires incroyables qui lui étaient arrivées autrefois. Il était question d'un fleuve, la Seine, et d'îles aussi. Oui, des îles, en plein Paris. L'île Saint-Louis, l'île de la Cité. On y accédait par des ponts, ce qui est rare pour une île qu'on atteint plutôt en bateau. Son père lui parlait des Champs-Élysées, sans doute un coin de campagne, ou de la place de la Concorde, ou de celle du Châtelet, comme de bobines de fil autour desquelles s'enroulaient constamment les voitures et les gens. Son père lui parlait de jardins, Tuileries, Butte-Chaumont, Luxembourg. Il lui décrivait des rues sans histoire et des histoires de rues qui avaient vu tuer Henri IV ou guillotiner des brigands. Il lui disait que Sartre allait aux deux magots et que les Allemands s'étaient installés dans un hôtel de Saint-Germain-des-Prés. Il lui disait que Nicolas Flamel pratiquait l'alchimie sous la tour Saint-Jacques et que Cocteau vivait dans les jardins du Palais-Royal. Quand Marianne sortit du travail, des hommes l'attendaient parfois et voulaient la connaître. Certains voulaient l'inviter en boîte, et elle se demandait pourquoi elle s'enfermerait dans un petit carton avec un homme dont elle ne savait rien. On lui proposait de danser, mais danser, Marianne n'avait aucune idée de ce que c'était. Elle aurait pu parler de Sartre ou de la commandanture, de la place de Grève ou de Ravaillac, mais elle ne savait pas que les Parisiens s'enfermaient dans des cartons pour gigoter et boire du whisky coca. Marianne ne savait rien, ou plutôt, elle savait seulement ce que son père lui avait dit de la vie. Cet homme était triste et il avait peur. Sa femme l'avait quitté quand Marianne avait 4 ans. Il savait qu'elle était quelque part, pas loin peut-être, dans un autre quartier en tout cas. De ce jour, il avait cessé d'arpenter la ville, comme il avait tant aimé le faire auparavant. Ce qui n'était pas sa rue et ses alentours avait fini par le dégoûter. Sa femme avait rencontré un autre homme, elle l'avait trahi. Et c'était comme si Paris était son amant, Paris tout entier. C'était comme si Paris la lui avait volée. La ville et ses tentations et ses hasards et ses conséquences. Paris et ses sourires, ses regards, ses propositions. Il avait posé la photo de sa femme sur sa table de nuit et il lui disait bonsoir comme si c'était normal. C'était pour Marianne qu'il était vivant. Sans elle, il aurait déménagé dans une forêt de croix et de mausolées, le Père Lachaise, où elle aurait joué aux cartes avec Chopin, Proust et Jim Morrison pour l'éternité. Le départ de sa femme était un enfer, mais il était peu sûr du paradis. En tout cas, la présence de Marianne, qui ressemblait tant à la femme qu'il avait chérie, rendait vivable une existence qui sans elle aurait ressemblé à un désert sans sable ou à une mer sans sel. Seulement la tristesse avait usé en lui l'envie de visiter, flâner, acheter, l'envie de marcher, boire aux terrasses, dîner, l'envie de parcourir Paris comme un livre d'images. Alors le père de Marianne avait fait de la capitale un roman de mots morts qui ne contenait plus que des choses passées. Année après année, il avait transmis à Marianne sa folie douce et la dureté de sa peine. Elle s'était laissée persuader que le monde se limitait au Lovely Sky et au bord du canal qui donnait à son quotidien des airs d'Amsterdam. Le jour de ses 20 ans, le patron fit une surprise à Marianne. Ce soir-là, ils fermèrent le bar vers 2h et demandèrent à Marianne de fermer les yeux. Elle les rouvrit devant 20 bougies et des coupes de champagne qui se remplissaient en grésillant. C'était la première fois que Marianne avalait de l'alcool. Elle grimaça comme une enfant qui trouve son lait brûlant, et ils rirent tous en croyant qu'elle le faisait exprès. Ils parlèrent un moment comme ça, en achevant la forêt noire qui dessinait des dents sales sur les rires gourmands. Marianne avait trop bu, elle crut que le Lovely Sky était une toupie, et le monde un manège, et la nuit un piège. Mais elle ne savait pas comment lutter contre l'ivresse, car elle n'était pas habituée. Sans résistance, elle se retrouva sur le siège arrière de la Clio de Julien, qui jouait les Américains. Elle était serrée contre Franck et agrippée au siège de devant occupé par Aurélien. Elle était bouche bée devant le spectacle qui défilait. La voiture avait remonté le boulevard Magenta, puis atteint Barbès, le métro aérien. Il passait en vert. Marianne aperçut un gros bateau blanc qui avait l'air d'une église grecque. On lui répondit que c'était le Sacré-Cœur, et elle s'en étonna car elle pensait ne rien avoir demandé. Ils s'attablaient dans un bar de Pigalle, sur une place où clignotaient des néons. La musique était forte et les gens dansaient, et Marianne imita les autres en pensant à son père qui devait l'attendre et se demander où elle était passée. Le problème, c'était que Marianne ne le savait pas. Elle dansa et s'oublia, elle gigota et rit. Elle inspira l'air chaud à fond et apprécia très fort les chansons d'Indochine et d'Arthur Ashe, et puis les Kinks et Garbage et Pete Doherty. Au matin, Marianne sortit de là échevelée, écarlate, et Franck mit sur ses épaules un manteau de cuir qu'elle trouva lourd et séduisant. La danse l'avait rendue plus sobre et elle prit peur en ne reconnaissant pas les alentours du Lovely Sky et se demandant où était Dieu et la rue qui portait son nom, au-delà de tous ces néons. Elle paniqua, son père lui avait dessiné un monde et voilà qu'elle marchait au bras d'un jeune homme dans un univers qui n'existait pas. Il ne lui avait jamais peint ce monde-là et pourtant Franck semblait bien le connaître. Ils marchèrent ainsi jusqu'à la place de Clichy. Franck poussa la porte d'une belle brasserie qui s'éveillait dans les vapeurs de café crème et le bruit des percolateurs. Marianne et Franck prirent 2 petits déjeuners complets avec toast, œufs brouillés, jus de fruits et tutti quanti. Marianne pensa qu'ils étaient sûrement morts puisqu'ils n'étaient nulle part. N'est-ce pas cela, l'au-delà, une ville à l'envers de l'autre, comme l'autre côté d'une pièce de monnaie ou d'une carte à jouer? Franck se pencha vers elle et lui murmura « Happy birthday ». C'est à ce moment-là qu'entra une femme, élégante et seule, comme les gens qui lisent les journaux dans les brasseries désertes du dimanche matin. Elle avait l'âge de son père, et Marianne la regarda comme on regarde un jouet qu'on avait perdu, ou comme un souvenir qu'on avait banni. La femme avait un manteau brun et des lunettes rouges, et des bottes élégantes vernies. Ses cheveux étaient encore longs et blonds, et tout en elle exprimait une faim forte de loisir et de liberté. Marianne la regarda s'asseoir et commander. Franck était soudain silencieux, on aurait dit que tout se taisait, et que ce nouveau monde pointait sa lumière sur cette femme étrange et libre et qui lui ressemblait. Quand Franck lui demanda si elle reprendrait un autre café ou si elle préférait rentrer chez elle ou aller marcher quelque part au bois, Boulogne ou Vincennes ou pourquoi pas plus loin en prenant un train vers la mer, Marianne eut l'impression qu'elle était soudain chez son père, qu'elle était rentrée comme ça, juste par la pensée. En regardant cette femme qui lisait les nouvelles et sirotait un thé de Ceylan, Marianne voyait la même femme dont la photo était posée sur la table de nuit et à laquelle son père disait bonsoir en se couchant, comme si c'était normal. Marianne fixait cette femme et Franck lui prenait la main. Et elle se demandait si elle devrait le dire à son père, avant ou après le bois, avant ou après la mer. Marianne se demandait s'il fallait dire à son père qu'on revoit les mers quand on nous prend la main.
Ah, une jolie histoire.
Ben oui, on ne sait pas si c'est l'effet de la nuit blanche ou la réalité.
Ben, tout est un peu...
C'est imbriqué.
Voilà, et puis bon... Ça paraît peu probable qu'elle soit jamais sortie de ces deux rues, mais bon, c'est une jolie histoire. C'est
oui.
Une jolie histoire.
Oui, oui, c'est un peu poétique même.
Voilà. Donc Alain Tellier, donc est écrivain. Il est né le 2 mars 1960 et donc il va entamer des études théâtrales au cours Florent. Il va jouer dans plusieurs pièces et puis en 84, il va devenir l'assistant de Jean-Luc Tardieu pour le spectacle Cocteau Marais. Avec Jean Marais en personne, bien sûr. Alors, en 89, il entre à Paris Première et présente l'émission quotidienne Tout Paris. Et pendant 7 ans, il reçoit dans son émission des artistes, auteurs, acteurs, réalisateurs, etc., pour parler de leur actualité. En 1995, il va quitter la chaîne pour reprendre son métier d'acteur. Il va jouer successivement dans plusieurs films pour la télévision. Et à partir de l'an 2000, il se consacre presque exclusivement au théâtre et à la littérature. Et entre 2010 et 2020, il va donc écrire quand même une dizaine de romans. C'est-à-dire un par an, quoi.
Quelle production, oh, ouais, il donne dans plusieurs domaines.
Voilà.
Ses hein. pièces sont jouées, j'ai regardé au petit Montparnasse et au studio des Champs-Élysées quand même. Hein, donc assez connu finalement au niveau du théâtre.
Bah oui, oui, oui. Donc voilà. Alors maintenant, on va écouter une histoire d'Irène Frein. Qui s'appelle L'Esprit de Paris, donc qui fait toujours partie de ce même recueil. Hein. Et donc là, l'histoire va être lue par Viviane.
L'Esprit de Paris. Paris. Longtemps, je me suis sentie en exil. Même le jour où j'ai acheté ce charmant appartement au fond du square. Pour emporter l'affaire, le patron de l'agence immobilière m'avait servi le plus banal des stéréotypes. La province à Paris. Ça ne m'avait pas heurté. J'aimais déjà cette cour en retrait du boulevard, ses arbustes taillés à l'ancienne, sa grille, dont la petite porte sur la droite grinçait comme dans un roman de Balzac, ses pavés inégaux et rugueux qui m'évoquaient, eux aussi, le temps figé de mon enfance bretonne, en début de printemps, d'insolentes touffes d'herbe, comme dans les images que j'avais gardées de ces temps lointains, pointaient leurs pouces entre leurs interstices. Enfin, les habitants de ce lieu secret, pourtant situé en plein Paris, me semblèrent eux-mêmes dotés d'une indéniable patine provinciale. Ce n'était pas seulement leur mise désuète, pour les dames, jupe droite et chemisier blanc, plus l'inévitable cardigan bleu marine égayé d'un petit rang de perles, pour les messieurs, de ces costumes de tweed comme on n'en trouve plus que dans les vieilles maisons, maisons de confiance, comme on dit encore à Dijon, Tarbes ou Quimper. Non, c'était plutôt le temps où semblaient se mouvoir mes nouveaux copropriétaires. Une lente fluence, eût-on dit, mystérieusement étrangère à l'agitation de la capitale, à la ductilité supposée de ses habitants, à ce vibrionnage créatif ininterrompu qui m'avait poussé à quitter mon pays natal et formait pour moi, à l'époque, l'essence même de Paris. Lui, le peuple du square, s'assemblait le laisser de marbre. D'où l'impression que je ressentis, au lendemain de mon emménagement, celle d'avoir échoué sur une mini-planète bien plus hostile que toutes celles que j'avais connues dans la galaxie Paris. Bien plus sournois que tous les précédents astéroïdes, celui-ci m'instillait une persistante sensation d'exil. Mais maintenant que j'avais acheté, plus question de déménager. Donc, tout ce que j'ai réussi à faire à ce moment-là, c'est de m'ouvrir de mon malaise à des amis restés en province. Si inhibé, cependant, que dans mes confidences, je n'ai pu dépasser le stade du cliché. Je me suis bornée platement à incriminer le syndrome du voisin de palier. À Paris, dans les immeubles, personne ne se connaît. Tout juste si on se dit bonjour, bonsoir. On peut mourir, personne ne s'en aperçoit. Mes amis de province, comme il fallait s'y attendre, ont opiné du chef. Pour une fois qu'ils ne passaient pas pour des plouques, et ils m'ont laissé à mon mal du pays, qui a cru et embelli. Par association d'idées, j'ai alors caressé le projet de prendre langue avec le fameux voisin de palier. J'ai très vite renoncé. Pour commencer, c'était une voisine. Et quand j'avais acheté mon appartement, l'agent immobilier m'avait prévenu. Elle a 100 ans. À l'œil effilé qu'il avait eu, j'avais soupçonné de lourdes spéculations financières derrière cette précision démographique. Mes calculs à moi avaient été plus courts. Les lois de la nature étant ce qu'elles sont, et mes occupations des plus absorbantes, statistiquement, ma voisine serait morte avant que nous ayons pu échanger un seul mot. Pas mal vu. Sitôt installée dans mon appartement du square, je me suis laissée entraîner par le cours trépinant de la vie à Paris. Travail, sortie, course faite à toute vitesse à la première supérette. Métro, boulot, dodo, en somme. Tout juste assaisonné à la sauce bobo. C'est un peu méfiante que j'ai franchi les 2,50 m du palier qui nous séparait. J'ai su ensuite que ma voisine, pendant tout ce temps, de sa fenêtre, m'a regardé faire. Est-ce l'œil critique qu'elle posait sur mon aveugle agitation qui l'a poussée, à la veille de mon premier Noël dans le square, à m'expédier sa vieille soubrette? Je n'en sais rien. Je me souviens seulement du message que me porta cette solide sexagénaire, elle-même fille de province, et débarquée chez ma voisine à l'âge de 20 ans, comme je l'ai aussi appris plus tard. Avec son pierreux accent de Corrèze, elle m'annonça toute go que sa patronne voulait m'offrir un verre. J'ai accepté, même si, dans sa bouche rustique, l'expression m'a paru un poil trop urbaine. C'est donc un peu méfiante que j'ai franchi les 2,50 m du palier qui nous séparait. Mais l'abord de ma voisine, d'emblée, m'a rassurée. Pour commencer, elle ne faisait absolument pas ses 100 ans. Vive et alerte, même si elle sortait peu, elle était au fait de tout, et la mode la passionnait. Or, ma mère avait été couturière de cette petite faiseuse de province qui avait réglé leurs rêves et leurs modestes ciseaux sur l'univers de Vionnet, Chanel, Lelong, Paquin, Lanvin. Mais à la différence de ma mère, ma centenaire les avait portées, ces sublimes créations, avant de fuir sa Russie natale et de se fixer ici, dans le square. Elle avait alors dirigé plusieurs cabines de mannequins. Ses murs étaient constellés de photos des fabuleux chiffons qu'elle avait fait voyager dans le monde entier. Un passé sur lequel elle restait très discrète. Elle préférait me questionner et vivre dans l'instant, celui de sa curiosité. Une passion qui, au fil des minutes, se révélait illimitée. Quand je suis rentrée chez moi, 2,5 m de palier dans l'autre sens, j'ai eu l'impression de revenir d'un long voyage. Je me revois tomber en arrêt face au mur qui séparait nos appartements. Persuadée de sentir, de l'autre côté de la paroi, la présence de la vieille dame. Mieux encore, l'épaisseur de sa vie, son enracinement ici. Et subitement, je me suis vue, comme elle, reliée à Paris. Un lien étroit, violent, connecté, comme on dit maintenant. Au square, bien sûr, mais surtout au monde qui vivait de l'autre côté de la grille, le boulevard, les rues, et surtout les gens, tous ces inconnus, venus eux-mêmes de très loin, qui peuplent la capitale. Et participent à créer, sans trop savoir comment d'ailleurs, ce que les étrangers appellent l'esprit de Paris. Je m'entends encore penser, j'en fais partie, moi aussi, de cette œuvre invisible. Et comme eux, tout en étant d'ailleurs, je suis d'ici. La vieille dame m'a réinvité une fois. Et il y en aurait eu, je pense, une troisième. Si l'été suivant, durant mes vacances, elle n'était morte. 15 jours qu'elle était au cimetière. J'ai pu ainsi vérifier, dans toute sa cruauté, la pertinence des banalités sur les Parisiens et leurs voisins de palier. C'est par l'agent immobilier que j'ai appris sa mort. Puis il m'a annoncé « Je vais acheter son appartement. Comme j'habite en face depuis que je suis née, ça ne va pas beaucoup me changer. » Il ne doutait pas de son coup. Il avait le même œil effilé qu'un an plus tôt, quand il m'avait dit qu'elle avait 100 ans. Et pourtant, c'est moi qui ai fait affaire. Le fils de la vieille dame, le lendemain même, est venu sonner chez moi pour me proposer l'appartement. Je le revois encore. Il avait 75 ans, il habitait lui-même le square et il portait un costume de tweed façon maison de confiance. Il a été direct. Vous pourriez percer les murs, relier les deux appartements. L'idée m'a séduite, mais intriguée. Son offre financière était plus que raisonnable. J'ai pressenti un vice caché. Il a lu en moi, il a souri. Nous, les gens du square, nous vendons toujours à des gens du square. Puis, désignant par-delà la grille l'immeuble de l'agent immobilier, il a ajouté ce bout de phrase qui fait qu'à Paris, maintenant, jamais plus je ne me sens exilée, plutôt qu'à des étrangers.
Eh oui, c'est pas facile pour des Parisiens d'adoption, voilà, de se sentir vraiment parisien. Il y en a qui se sentent plus parisiens alors que d'autres, ouais. Alors qu'ils sont, ils sont pas du tout nés à Paris. Ça fait que 3 ans qu'ils sont là, mais
bah, tu sais où habiter maintenant.
Mais bon. Et moi, je me rappelle une fois comme ça, j'avais rencontré au cours d'un dîner parisien. Donc voilà. Un jeune homme qui venait de Dinard, tu vois, en Bretagne. Ah oui. Donc, bon, voilà. Et donc, lui, ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était parisien, mais il s'était vraiment investi dans le...
la communauté, voilà, le quartier.
Voilà, ouais. Et tout ça. Et alors, il me parlait comment il me demeurait, parce que je venais d'Evreux. Ah bah, alors, et en me disant, mais tu comprends, là tu...
C'est la campagne.
Donc, bon, oui, ça va. Je peux suivre la conversation.
Oui, c'était un petit peu trop identifié aux Parisiens de naissance.
Voilà, un peu trop snob. Bon, alors on va vous parler un petit peu d'Irène Frein. Donc, elle est née, elle, à Lorient, et non pas à Évreux, mais le 22 mai 1950. Donc, elle est romancière, journaliste, également membre fondatrice du Women's Forum for the Economy and Society. Donc, elle a écrit également une quarantaine de romans, quand même, dont les principaux livres sont Nabab, Secret de famille, Davy, L'homme fatal, Les naufragés de l'île Tromelin ou encore Sortir de rien. Et bien d'autres, bien sûr, parce que.
Ouais, voilà, elle est connue.
Hein. Je ne peux pas tout vous dire, là, comme ça. Et puis, mais en fait, elle a écrit peu de nouvelles. Et donc là, c'est pareil, c'était pour ce livre en particulier.
Pour l'occasion.
Pour l'occasion.
Alors, à signaler, elle a remporté le prix Interallié l'année dernière, en 2020, pour son livre Un crime sans importance. Ça m'a donné envie de le lire parce qu'elle parle d'un assassinat mystérieux, celui de sa sœur aînée, qui l'a beaucoup aidée apparemment. Une petite dame à la retraite, et apparemment, ça, il n'y a eu rien d'expliqué, si ce n'est que peut-être le vol de certaines choses dans la maison. Mais elle a voulu comprendre. Elle a bâti un roman là-dessus, et elle était presque honteuse d'avoir eu le prix Interallié parce que ce n'était pas fait du tout pour gagner un prix.
Et donc, sa sœur vit à Paris ou
bah, sa sœur vivait à Paris, donc.
Vivait à Paris aussi.
Ouais, ouais.
Donc, deux Parisiennes d'adoption.
Voilà, tu sais, c'était un assassinat banal, entre guillemets, si on peut dire, oublié. Elle a voulu essayer de comprendre et je pense qu'elle a bâti une histoire intéressante. Le prix interallié, il est prestigieux.
Oui, bah oui, quand même. Eh bien, là, on va parler d'un écrivain prestigieux aussi.
Aussi.
Voilà, qui n'a rien de parisien, mais qui aime Paris. Et donc, c'est Ernest Hemingway. Donc, dans son livre « Paris est une fête », il a donc fait plein de petites...
Des vignettes, il appelait ça, lui.
Voilà, sur Paris. Et donc là, eh bien, on va vous lire un texte qui s'appelle « Les gens de la Seine ».
Il y avait plusieurs chemins pour descendre du haut de la rue du Cardinal Lemoine à la Seine. Le plus court était de suivre la rue, tout simplement. Mais elle était raide et... Une fois en terrain plat, lorsque vous aviez traversé le bas du boulevard Saint-Germain, très encombré en cet endroit, vous débouchiez sur une partie morne et venteuse des quais, avec la halle au vin à votre droite. Cette halle ne ressemblait à aucun autre marché de Paris. C'était une sorte d'entrepôt où les vins étaient emmagasinés, moyennant le paiement d'une taxe, et son aspect était aussi gai que l'abord d'une caserne ou d'un camp de détenus. Mais de l'autre côté du bras de la Seine se trouve l'île Saint-Louis, avec ses rues étroites, ses vieilles maisons hautes et majestueuses, et vous pouviez vous y rendre directement, ou bien tourner à gauche et longer le fleuve, face à l'île Saint-Louis, à Notre-Dame et à l'île de la Cité. Dans les boîtes des bouquinistes, il était possible de trouver parfois des livres américains, tout récemment parus, et à des prix dérisoires. Au-dessus de la tour d'argent, il y avait, en ce temps-là, quelques chambres que le restaurateur louait à des gens qui bénéficiaient alors de conditions spéciales au restaurant. Et si les locataires laissaient derrière eux quelques livres en partant, le valet de chambre allait les vendre à une bouquiniste toute proche, chez qui on pouvait les acquérir pour trois fois rien. Elle n'avait aucune confiance dans les livres écrits en anglais, les achetait pour des sommes infimes, et les revendait le plus vite possible, moyennant un bénéfice minime.
« Est-ce que ça vaut quelque chose ?»
me demanda-t-elle un jour, après que nous fûmes devenus amis. « Il y en a parfois de bons. »«
Mais comment savoir lesquels ?»«
Je ne le sais qu'après les avoir lus. »«
C'est une sorte de pari, quand même. Et combien de gens peuvent lire l'anglais ?»«
Gardez-les-moi et laissez-moi les parcourir. »
Non, non, je ne veux pas les garder. Vous ne venez pas assez régulièrement. Vous restez absent trop longtemps, chaque fois. Il faut que je les vende aussi vite que je peux. S'ils ne valent rien, personne ne peut encore les avoir, le savoir. Mais s'ils arrivent qu'ils ne valent rien vraiment, je ne pourrai plus jamais les vendre.
Comment savez-vous si un livre français a de la valeur ?
D'abord, il y a les images. Ensuite, la qualité des images. Et puis la reliure. Si le livre est bon, le propriétaire l'a fait relier comme il faut. Tous les livres anglais sont reliés et mal reliés. Il est impossible de savoir ce qu'ils valent.
Au-delà de la boîte de cette bouquiniste près de la tour d'argent, il n'y avait plus un seul livre anglais ou américain à acheter jusqu'au quai des Grands Augustins. Mais à partir de ce point, et jusqu'au-delà du quai Voltaire, il y avait plusieurs bouquinistes qui vendaient des livres achetés aux employés des hôtels de la rive gauche, et tout particulièrement de l'hôtel Voltaire, qui possédait une clientèle plus riche que beaucoup d'autres. Je demandai un jour à une autre bouquiniste de mes amis si ce n'étaient jamais les propriétaires des livres qui les vendaient.
Non, ce sont tous des livres que les gens ont jetés. Voilà pourquoi on ne sait qu'ils n'ont aucune valeur.
Des amis les leur ont donné à lire pendant la traversée.
Sans doute, ils doivent en laisser beaucoup à bord.
En effet, la compagnie les garde, les fait relier et les met dans la bibliothèque des bateaux.
Astucieux. Au moins, ils sont bien reliés. Un livre comme ça prend de la valeur.
Je flânais le long des quais après mon travail ou quand j'essayais de trouver une idée. Il était plus facile de réfléchir en marchant ou en faisant quelque chose ou en voyant les gens faire quelque chose qui était de leur ressort. À la pointe de l'île de la Cité, au-dessous du pont Neuf où se trouvait la statue d'Henri IV, l'île finissait en pointe, comme l'étrave aiguisée d'un navire. Et il y avait là un petit parc, au bord de l'eau, avec de beaux marronniers, énormes et largement déployés. et dans les trous et les remous qu'engendrait le mouvement de l'eau contre les rives, il y avait d'excellents coins pour la pêche. On descendait dans le parc par un escalier pour regarder les pêcheurs qui se tenaient là et sous le grand pont. Les endroits poissonneux changeaient selon le niveau du fleuve et les pêcheurs utilisaient de longues cannes mises bout à bout, mais pêchaient avec de très bons avançons, des engins légers et des flotteurs de plumes, et ils amorçaient leurs coins de façon fort experte. Ils attrapaient toujours quelque chose et faisaient souvent de fort bonnes pêches de goujons. Ceux-ci se mangeaient frits, tout entiers, et je pouvais en dévorer des platés. Leur chair était tendre et douce, avec un parfum meilleur encore que celui de la sardine fraîche, et pas du tout huileuse, et nous les mangeions avec les arêtes, sans rien en laisser. L'un des meilleurs endroits pour en manger était un restaurant en plein air construit au-dessus du fleuve, dans le Bas-Meudon. Nous y allions quand nous avions de quoi nous payer un petit voyage hors du quartier. On l'appelait la pêche miraculeuse, et on y buvait un merveilleux vin blanc qui ressemblait à du muscadet. Le cadre était digne d'un conte de Maupassant, et l'on y avait une vue sur le fleuve, comme ciselé en appin. Mais ce n'était pas la peine d'aller si loin pour déguster une friture de goujon. Il y en avait de délicieuses dans l'île Saint-Louis. Je connaissais plusieurs des pêcheurs qui écumaient les coins poissonneux de la Seine entre l'île Saint-Louis et le square du Vert-Galant, et parfois, si le ciel était clair, il m'arrivait d'acheter un litre de vin, un morceau de pain et de la charcuterie. Et je m'asseyais au soleil et lisais l'un des livres que je venais d'acheter et observais les pêcheurs. Les auteurs de récits de voyage ont décrit les pêcheurs de la Seine comme des fous qui ne prennent jamais rien. Mais leur industrie était sérieuse et profitable. La plupart d'entre eux étaient de petits retraités qui ne savaient pas encore que leur pension serait réduite à rien par l'inflation, ou des passionnés qui y passaient leur journée ou demi-journée de congé. On prenait plus de poissons à Charenton, au confluent de la Seine et de la Marne, et à chaque extrémité de Paris, mais on pouvait faire de bonnes pêches à Paris même. Je ne pêchais pas, faute de matériel, et je préférais économiser l'argent pour m'équiper en vue de mes parties de pêche en Espagne. À cette époque, je ne savais jamais à quel moment j'aurais fini de travailler, ni quand je serais obligé de m'absenter, et je ne voulais pas commencer à m'intéresser à la pêche qui a ses bons et ses mauvais moments. Mais je n'en observais pas moins avec attention les pêcheurs, cela m'intéressait et me profitait, et j'étais toujours heureux de constater que certains pouvaient pêcher dans la ville elle-même, avec tout le sérieux et l'application requis, et rapporter quelques bonnes fritures chez eux, à leur famille. Avec les pêcheurs et la vie sur le fleuve, les belles péniches et leurs mariniers vivant à bord, les remorqueurs avec leurs cheminées qui se rabattaient d'avant en arrière au passage des ponts, tirant tout un train de péniches, les grands ormes sur les berges de pierre le long du fleuve, les platanes et par endroits les peupliers, je ne pouvais jamais me sentir seul au bord de la Seine. Il y avait tant d'arbres dans la ville que vous pouviez voir le printemps se rapprocher de jour en jour, jusqu'au moment où une nuit de vent chaud l'installerait dans la place entre le soir et le matin. Parfois d'ailleurs, les lourdes pluies froides le faisaient battre en retraite, et il semblait qu'il ne viendrait jamais et que ce serait une saison de moins dans votre vie. C'était le seul moment de vraie tristesse à Paris, car il y avait là quelque chose d'anormal. Vous vous attendez à être triste en automne. Une partie de vous-même meurt chaque année quand les feuilles tombent des arbres, dont les branches demeurent nues sous le vent et la froide lumière hivernale. Mais vous savez déjà qu'il y aura toujours un printemps, que le fleuve coulera de nouveau après la fonte des glaces. Aussi, quand les pluies froides tenaient bon et tuaient le printemps, on eût dit la mort inexplicable d'un adolescent. Et même si le printemps finissait toujours par venir, il était terrifiant de penser qu'il avait failli succomber.
Donc voilà cette nouvelle, cette étiquette de notre Américain à Paris. Là. Donc bien sûr Ernest Hemingway. Alors lui, il est né en 1899. Donc ça remonte. Hein, c'est même pas le siècle dernier, c'est le siècle d'avant. Et donc, il est né près de Chicago. Il va passer tous les étés de sa jeunesse en plein bois, au bord du lac Michigan, ce qui lui a sûrement donné son goût pour la pêche.
C'est son père qui l'emmenait pêcher, je crois.
Et donc, en 1917, il va entrer au Kansas City Star comme reporter. Il s'engage en 1918 comme ambulancier de la Croix-Rouge sur le front italien. Et après la guerre, Hemingway reprend en Europe son métier de journaliste. En 1936, il devient correspondant auprès de l'armée républicaine en Espagne. Il fait la guerre de 1939 à 1945 et participe à la libération de Paris avec la division Leclerc. Puis il va continuer à voyager, Cuba, l'Italie, l'Espagne. Et en 1954, Hemingway reçoit le prix Nobel de la littérature. Et sachant qu'en 1961, il va mettre fin à ses jours.
Ben oui, il avait une maladie génétique à préciser, parce que ça a été découvert un peu après, je crois. Et cette maladie génétique générait des troubles psychiques et mentaux. Alors, on a beaucoup parlé de son addiction à l'alcool, mais finalement, il y avait quand même autre chose parce que dans sa famille, ils se sont rendus compte que les gens se suicidaient. Et en fait, ça semblait lié à cette maladie depuis est connue. Donc, parfois, tu vois, on va s'imaginer des choses. C'est autre chose.
Alors, il va écrire la plupart de ses œuvres entre le milieu des années 20 et le milieu des années 50. Et sa carrière va culminer en 54, lorsqu'il a bien sûr reçu le prix Nobel de littérature. Alors, ses romans ont rencontré un grand succès auprès du public du fait de la véracité avec laquelle il dépeignait ses personnages. Alors, plusieurs de ses œuvres furent élevées au rang de classiques de la littérature américaine. Et il a publié de son vivant 7 romans, 6 recueils de nouvelles et 2 œuvres non romanesques. Alors, ensuite, 3 romans, 4 recueils de nouvelles et 3 œuvres non romanesques ont été publiées à titre posthume. Donc, vous voyez, il avait encore un sacré bagage.
Écrivain productif.
Voilà. Donc, bien sûr, ne vous inquiétez pas, on vous fera une émission spéciale Hemingway, vu le nombre de nouvelles qu'il a écrites.
Ça mérite.
On ne va pas pouvoir passer au travers. Alors, au cours de l'été 1957, Ernest va commencer à travailler sur les vignettes parisiennes. Comme il appelait alors Paris est une fête. Il travaille à Cuba et à Ketchum et emporta même le manuscrit avec lui en Espagne pendant l'été 59, puis de nouveau à Paris. À l'automne donc de cette même année, le livre va rester inachevé et il va être publié de manière posthume en 1964. Pendant les 3 années ou presque qui s'écoulent entre la mort de l'auteur et la première publication, le manuscrit va subir d'importants amendements de la main des éditeurs. Donc se trouve aujourd'hui restitué et présenté pour la première fois le texte manuscrit original tel qu'il était au moment de la mort de l'écrivain en 61. C'est quand même incroyable que les éditeurs se permettent...
Je trouve ça, oui, c'est bizarre.
Parce qu'en fait, qu'ils le fassent avec l'accord de l'auteur. Bon,
même pas.
Même si l'auteur n'est pas forcément...
Bah oui, c'est pas toujours... Voilà. C'est comme quand le fils de Sagan a écrit presque un bouquin entier de sa mère. C'est bizarre.
Voilà, donc c'est quand même... voilà. Alors... Donc, par exemple, ainsi, Le poisson pilote et les riches, l'un des textes les plus personnels et intéressants, retrouve ici ces passages supprimés par les premiers éditeurs dans lesquels Hemingway assume la responsabilité d'une rupture amoureuse, exprime ses remords ou encore parle de l'incroyable bonheur qu'il connut avec Pauline, sa deuxième épouse. Quant à Nada y pues nada, je ne sais pas si je lis bien...
Oui, rien et pour rien. Je traduis, moi.
Merci, heureusement qu'on est deux. voilà, donc c'est un autre texte inédit et capital, écrit en 3 jours en 61. Il est le reflet de l'état d'esprit de l'écrivain au moment de la rédaction, 3 semaines seulement avant une tentative de suicide, où Hemingway déclare qu'il était né pour écrire et qu'il avait écrit et qu'il écrirait encore.
Alors, dans un autre endroit, un autre univers, hein, voilà. Certainement. Moi, j'aime bien cette petite nouvelle là, qu'on a lue sur Paris, parce qu'on sent qu'il a beaucoup observé, qu'il s'y est beaucoup plu, puisqu'il y a vécu dans les années 20 à Paris. Il était à Montparnasse, il faisait la fête avec Dos Passos, avec Scott Fitzgerald, que tu connais aussi.
Et je me demande d'ailleurs, dans le film de Woody Allen, tu sais...
Oui, il y a des références.
Minuit à Paris. Il me semble qu'on croise aussi Hemingway, il me semble
exact,
bien.
Exact, il y a des références.
Et puis, il y a plein de films qui ont été faits, soit sur sa vie, enfin des des biopics, voilà, ouais. C'est ça, merci. Et puis, enfin, puis des films qui ont été tirés de ces livres aussi.
Oui, ah bah, comment ne pas parler du Vieil homme et la mer, voilà. Toi, en tant que cinéphile, t'as bien dû le regarder avec... Alors, en 90...
C'était Spencer Tracy.
Spencer Tracy en 58, et puis il y a eu une deuxième version avec Anthony Quinn.
Ah oui.
En 90, qui est superbe. Et bon, j'avais relevé une phrase de sa première femme, Adley, à propos des vignettes sur Paris, qui disait de lui, il était le partenaire des boxeurs à l'entraînement, l'ami des garçons de café, le confident des prostituées. On voit qu'il s'est investi à Paris comme un gars de Montparnasse, quoi, vraiment.
Oui, oui, oui. Bah, il était près des gens, quoi. Il était...
Ouais, c'est ça, beaucoup... Alors, la pêche, les bouquinistes, quelqu'un qui a essayé de comprendre un peu la ville de l'intérieur. Alors, j'ai aussi autre chose à dire à propos d'Hemingway, mais j'en garde sous le coude parce qu'on reparlera de lui.
Oui, oui, mais bon. Mais... Après, tout le monde n'écoute pas forcément toutes nos émissions avec attention. On peut en parler plusieurs fois.
Parce que j'ai pensé à toi et tes chats. Il est berger en Floride, dans sa maison de Floride, une petite centaine de chats. Et il avait un goût particulier pour des chats dont j'ai découvert l'existence, les chats polydactyles. C'est les chats qui ont 6 ou 7 doigts au lieu de 5. Et paraît-il, il y a un musée dans sa maison de Floride, musée dédié à Hemingway, évidemment, qui lui est dédié. Et il y aurait encore des descendants de ces chats polydactyles qui rôdent autour de la maison.
Autour de la maison.
Voilà, pour la petite histoire.
Ok, ok. Bon, bah c'est Jacques Dutronc dans sa maison en Corse qui a plein de chats aussi.
Il est pas mal, c'est pas mal non plus.
Je crois qu'il a pas mal de chats aussi.
Collectionneur aussi.
Donc, c'est vrai que je me rappelle d'un film, un biopic qui a été fait. C'est Clive Owen, je crois, qui fait le rôle de Hemingway. Et effectivement, où on voit plein de chats partout dans le film.
Il faut encore que tu aies des chats. T'en manques quelques-uns.
Oui, là, avec moi, j'en ai que 6. Donc là, ça va.
Bon, ça va.
Je suis pauvre figure. Hein.
C'est gérable.
Donc voilà, ce petit tour parisien, voilà, j'espère que vous aura donné envie d'aller un petit peu à Paris.
Bah, de retourner à Paris. Hein.
Voilà.
Paris qui tire son nom. Alors, on peut peut-être parler de l'étymologie, je ne savais pas. C'est un peuple de Gaulois qui vivait au IIIe siècle à Paris. C'était un village de pêcheurs.
La pêche,
on y revient. Les Parisis. Et puis bon, on sait que Paris est devenu capitale vers 500. C'est Clovis, vers 508, qui a déclaré
Serait Paris la capitale.
Donc ça fait un petit bout de temps.
Oui, ça remonte quand même là, à quelques siècles.
Voilà.
Bon, et bien très bien alors.
Et puis elle va le rester quelques temps encore.
Oui,
on peut y retourner.
On peut supposer. C'est la plus belle ville du monde, c'est ça, hein, Paris.
Exactement.
Paname, comme chantait
Paname, Léo
Edith Piaf.
Léo Ferré. Paname, on t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons. Qui parlent de qui, de quoi, quoi bon.
Quoi bien, donc bon. C'est bien, tu nous fais des petites chansons en direct.
Ouais, je ne suis pas très accordé. Cool.
Bon allez, on se met un petit coup d'accordéon pour finir l'émission.
Allez.
Et puis, on se retrouvera bientôt. Je ne sais même plus de quoi on va parler la prochaine fois, mais comme ça sera la surprise.
Bon, tu retrouveras le fil.
Alors, à bientôt dans une prochaine émission.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.